Voilà, dans cette dernière conférence, il nous reste à conclure et nous allons conclure avec la Vierge Marie comme modèle de l'abandon. Et j'ai pas eu le temps de très bien travailler j'espère que ça va bien se dérouler. Voilà, la Vierge Marie comme modèle d'abandon, puis on conclura. Les références que j'ai trouvées pour cet enseignement, cette dernière conférence, sont tirées beaucoup de quelques textes de Benoît XVI, et puis qui a de très très belles paroles sur la Vierge Marie, et puis bien sûr un petit peu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand même, parce que sa dernière poésie, « Pourquoi je t'aime, ô Marie », c'est vraiment la dernière qu'elle a composée comme poésie. Elle sentait qu'elle n'avait pas tout dit encore, et en fait dans ce qu'elle dit dans sa poésie, bon, y a plusieurs passages, hein, mais elle parle beaucoup de cette attitude d'abandon chez la Vierge Marie, et puis un petit peu aussi d'un livre que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle les beaux livres, vous savez, avec des photos et puis des tableaux, des peintures et puis du texte de Guillaume de Mantières, « Je vous salue Marie ». Genre de beau livre qu'on peut offrir pour une occasion ou une autre. Et le texte de Guillaume de Mantières, on sent que c'est un prêtre de Paris, hein, curé de Paris, qui a un cœur très marial. Il a écrit un livre qui s'appelle Marie, je crois, la Vierge Marie ou Marie de Nazareth, le récit. Et il y en a un seul exemplaire à la librairie. Donc, ne vous jetez pas dessus comme les oiseaux sur la mie de pain. Mais voilà. Je pense qu'on le trouve aussi ailleurs. Je voudrais commencer cette dernière, ce sera plus une méditation, cette dernière méditation conclusive de tout ce que l'on a dit, par un premier point qui est un présupposé à ce qu'on va dire. C'est la liberté de Marie. Et je voudrais montrer dans cette partie que, au fond, il n'y a d'attitude, il n'y a d'abandon à la volonté divine que de façon libre. Il faut être libre pour s'abandonner. Et s'abandonner, ça n'est pas s'aliéner. Mais c'est vraiment, l'abandon, c'est un acte de liberté. On a dit au tout début de ces enseignements que par rapport à la volonté de Dieu, il y avait finalement deux types d'attitudes. La première attitude qui est juste, les deux attitudes sont justes. La première attitude, c'est par rapport à la volonté exprimée, la volonté signifiée de Dieu, était requise l'obéissance. Nous avons à obéir au commandement divin. Nous avons à obéir à l'enseignement du magistère de l'Église. Nous avons, voilà, tout ça c'est de l'ordre de l'obéissance. Et l'obéissance a trait à la vertu de justice. Et nous avons dit aussi que par rapport à que la volonté de Dieu s'exprimait aussi d'une façon non signifiée et qui pour nous est peu claire et qui requiert de notre part la foi, c'est la manière dont Dieu s'exprime à travers les événements de notre vie, à travers l'ensemble des circonstances de notre vie. L'ensemble des circonstances de notre vie, l'ensemble de ce que nous vivons est soutenu par la providence divine. Nous ne connaissons pas tout ce qu'il va nous arriver, tous les événements de notre vie, les peines, les joies, les échecs, les réussites. Mais nous avons dans ce domaine-là, de cette volonté non explicite de Dieu, ce qu'on appelle la volonté de bon plaisir de Dieu, selon le langage des théologies du XVIIe siècle, hein, surtout, la volonté de bon plaisir de Dieu, eh bien, nous avons à nous abandonner, et cela a trait à la vertu de charité. Voyez, la volonté explicite de Dieu requiert de nous l'obéissance et a trait à la vertu de justice. La volonté de bon plaisir de Dieu dans les événements courants de notre vie requiert de nous l'abandon, et l'abandon est un acte d'amour. Or, il n'y a pas d'amour sans liberté. C'est pour ça que Dieu nous a créés libres, pour que nous soyons capables d'amour. D'un véritable amour par lequel on se donne vraiment à l'autre, on se donne vraiment à celui qu'on aime. On ne peut se donner que dans la liberté. Et bien précisément, c'est cela qu'il nous faut découvrir déjà dans la figure de Marie. Marie est la créature la plus libre qui soit. L'Immaculée Conception, Marie est Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception, dit-elle à Sainte Bernadette. Elle ne dit pas je suis conçue immaculée. Elle dit je suis l'Immaculée Conception. Autre chose est d'être blanc, autre chose est la blancheur. Autre chose pour un être est d'être parfaite. Pour une chose d'être parfaite, autre chose est la perfection. Eh bien, la Vierge Marie n'est pas simplement conçue immaculée, conçue sans tache, elle est l'Immaculée par excellence. L'Immaculée Conception. Alors, c'est difficile, hein, mais si elle s'adresse comme ça à Bernadette, ça veut dire quelque chose théologiquement. Bon, je ne m'arrête pas là-dessus parce que ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter, ce n'est pas un cours sur l'Immaculée Conception. Mais montrer que l'Immaculée Conception, au départ, c'est l'œuvre de la miséricorde prévenante de Dieu. Retour, bien sûr, à l'évangile de l'Annonciation. L'ange Gabriel, la salutation angélique, commence comme cela. « Je vous salue, comblé de grâce. » Le terme grec, c'est kekaritomene, beaucoup plus que pleine de grâce. Si vous voulez, pleine de grâce, c'est un peu matériel comme expression. Pleine de, comblée, elle est comblée de grâce. Et une toute petite précision, vous voyez, pour Benoît XVI, dans le langage de Benoît XVI, la grâce, c'est l'amour. Toute grâce donnée par Dieu provient de son amour, est un amour. Donc, dire de la Vierge Marie qu'elle est comblée de grâce, c'est dire qu'elle est comblée d'amour. Elle est comblée de l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que l'ange Gabriel salue la Vierge Marie. Et cette expression va être la préparation évangélique dans l'évangile de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Pleine de grâce, cela signifiera très très vite pour les théologiens qu'elle est préservée du péché originel. Et c'est cela qu'il faut saisir, c'est que ce que je vous avais un petit peu dit la dernière fois, c'est-à-dire que la liberté de la Vierge Marie vient de ce qu'elle est sans péché. Le péché est un obstacle à la véritable liberté. Quand le pécheur le sait très bien, il dit je ne peux pas aimer, je n'aime pas parfaitement, je n'aime pas librement parce que je suis aux prises avec ce péché, je suis aux prises avec cette addiction, je suis aux prises et voilà. Et je, vous voyez, le péché est vraiment un obstacle. La Mère de Dieu n'est pas immaculée en raison d'un simple privilège. C'est pas simplement un privilège divin. C'est pas simplement par ses propres forces. Si elle est préservée du péché, c'est par une grâce prévenante de Dieu. Prévenante. Un amour prévenant. Marie, et cela c'est donc le Guillaume de Mantière qui le dit dans son petit livre « Je vous salue Marie ». Marie a bien été rachetée par une grâce anticipative, qui ne la purifie pas, mais la préserve. Elle n'est pas purifiée, elle est préservée. du péché. Elle a été rachetée par une grâce anticipative. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que tous les hommes en regardant le mystère de la croix, en regardant l'œuvre de la rédemption, la croix c'est la rédemption, tous les hommes ont besoin des grâces de la miséricorde exprimées dans le mystère de la croix. La Vierge Marie n'échappe pas à l'œuvre de la rédemption, mais on pourrait dire, si vous voulez, si, la question théologique c'est la suivante, si elle est sans péché et sans péché originel, alors elle n'a pas besoin du salut, elle n'a pas besoin de la croix. Si. Et la théologie dit, la Vierge Marie n'a pas besoin de la croix parce qu'elle serait sans péché. Elle est sans péché parce que, par avance, par anticipation, la rédemption, la croix de Jésus, c'est en quelque sorte les mérites de la croix de Jésus, je parle ici en théologien, les mérites de la croix, de la passion de Jésus, se sont déjà, par anticipation, épanchés sur le cœur de la Vierge Marie. Donc, c'est ce qu'on appelle une grâce anticipative. Ainsi, elle n'échappe pas à la rédemption opérée par son Fils, bien au contraire, elle en est la plus grande bénéficiaire. La conception immaculée de la Vierge est le triomphe de la rédemption. On voit, en voyant Marie, nous voyons l'accomplissement plénier de ce que Jésus a fait pour nous, dans son plus grand amour, sur la croix. Ça, c'est une réalité qui est importante, que les saints vont, que quelques figures de sainteté vont comprendre cela. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle emploie, donc c'est dans le manuscrit A, premier manuscrit de son œuvre autobiographique, de l'histoire d'une âme, elle parle à un moment donné, elle prend une image, une comparaison avec le médecin. Imaginons, dit-elle, alors je n'ai pas le texte ici, je vous le dis de mémoire, imaginons un enfant dont le père est médecin. Cet enfant marche sur un chemin caillouteux, voilà, et son pied heurte une pierre, il tombe et il se fait mal. Et son père, qui est là et qui est médecin, court à son secours et vient le secours et lui panse les plaies, le guérit, etc. etc. Voilà comment s'exprime la miséricorde de Dieu. Et en fait, imaginons, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que ce même médecin, par pure bonté, par une bonté extrême, par une bonté plus grande encore, infinie, sans que son fils puisse le deviner et le sache, ôte la pierre. Et son fils, passant sur le chemin, à ce moment-là, ne se blesse pas, ne heurte pas cette pierre. Le Fils, ne le sachant pas, au départ, ne connaîtra pas, ne pourra pas forcément connaître la miséricorde de Dieu. Mais s'il vient à le savoir, s'il vient à découvrir que son propre Père a tout fait pour ôter la pierre, il n'en sera que plus reconnaissant encore. Et alors pourquoi cette petite image du médecin, du bon médecin prévenant? Pour nous expliquer, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus veut expliquer comment elle peut être reconnaissante, elle, de la miséricorde de Dieu pour elle. Vous savez, l'histoire d'une âme commence par « Je voudrais chanter sans fin, ô mon Dieu, vos miséricordes ». Et toute son histoire, toute sa biographie, c'est de montrer à quel point la miséricorde de Dieu pour elle a été infinie. Et a été justement prévenante. Voyez, et que, donc, elle ne peut que l'en aimer davantage. Peut-être que je l'ai ici, voilà. Thérèse de l'Enfant Jésus était très frappée de la parole du Christ, Quand le Christ dit à Simon, le pharisien chez lequel il est invité à déjeuner, et qu'il y a cette pécheresse qui vient et qui lui lave qui verse ses larmes et ses pleurs sur ses pieds et qui les essuie de ses cheveux par reconnaissance, celui à qui on remet moins aime moins. Une phrase particulière. On répétait autour d'elle que les bons chrétiens n'arrivent jamais à aimer Dieu aussi follement que les convertis. Alors, elle trouva la réponse de son cœur. Le bon Dieu m'a pardonné beaucoup plus encore qu'aux pécheurs, puisqu'il m'a préservé. Elle se demandait, mais est-ce que j'arriverai à aimer? Vous savez, c'est vraiment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a un tel zèle dans l'amour que elle s'inquiète de savoir si quelqu'un pourrait aimer davantage qu'elle le Seigneur. C'est un peu, voilà, c'est dans sa jeunesse qu'elle dit ça, elle est toute jeune. Et alors elle s'interroge, Marie-Madeleine est une figure qui l'a énormément touchée. Et elle dit, mais Marie-Madeleine aime le Seigneur parce que elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. Et alors elle dit, mais moi, j'ai pas péché autant que Marie-Madeleine. Elle le voit objectivement, elle se dit, mais je suis pas Marie-Madeleine. Alors, est-ce que j'aimerais davantage le Seigneur? Et c'est là où elle découvre ce que signifie la théologie de la prévenance, vous voyez, de la miséricorde prévenante. Mais au fond, le Seigneur, lui, m'a empêché de tomber. Marie-Madeleine est peut-être tombée, vous voyez, c'est comme cet enfant qui tombe et qui se heurte sur la pierre, et le Seigneur ne l'a aimé parce que Marie-Madeleine est revenue vers lui. Mais moi, je dois reconnaître davantage, c'est que pour moi, le Seigneur a prévenu ma chute, et je ne peux que l'en aimer davantage. Ça, c'est un point capital pour nous. Voyez, toute confession devrait commencer par une action de grâce pour les péchés que nous n'avons pas faits. Parce que nous nous rendons compte, nous découvrons que le Seigneur nous aime à ce point qu'il prévient nos chutes et que souvent nous n'en avons pas conscience. Nous devrions rendre grâce pour les chutes que nous n'avons pas faites. Eh bien, la Vierge Marie, c'est cela, vous voyez? La grâce anticipative, la miséricorde prévenante, mais d'une façon parfaite, si vous voulez. Et donc, il y a un champ de jubilation dans la Vierge Marie, dans laquelle nous allons entrer pendant cette heure, un champ de jubilation dans le cœur de la Vierge Marie, qui n'est que cette reconnaissance de la miséricorde de Dieu pour elle. Marie est l'objet parfait de la miséricorde. Et donc, sans obstacle qui la replierait loin de Dieu, la Vierge Marie peut répondre pleinement librement à Dieu pour répondre au dessein divin du salut des hommes. Deuxième point, toujours dans ce premier point. Dans la liberté de Marie. Que signifie cette liberté? Si l'abandon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si l'abandon consiste non pas dans une résignation passive, en disant après tout, ben puisque c'est comme ça, mais puisqu'il faut bien accepter les choses, si l'abandon est autre que cette résignation, mais un véritable acte d'amour par lequel la volonté, notre volonté s'unit à celle de Dieu en toutes choses, on peut dire qu'il est l'acte le plus libre qui soit et qui provient du plus profond de nous-mêmes, qui doit provenir du plus profond de nous-mêmes. Je veux vraiment ce que Dieu veut aujourd'hui. Maintenant. Il y a des abandons qui manquent de véritable liberté, qui sont plutôt des laissés-aller spirituels. Alors, maquillés, hein, bien sûr, maquillés de quiétisme, maquillés de tranquillisme, de tranquillité, mais qui sont des véritables capitulations. On se laisse aller. Et on se laisse aller finalement à une vie plus ou moins médiocre. Et on attend toujours que Dieu enfin nous parle. On peut attendre longtemps. Parce que Dieu ne cesse de nous parler. Mais on s'est habitué, par un espèce de faux abandon, à attendre un peu, quoi, attendre le miracle. Voilà. Et en fait, miracle, on se réduit à des phénomènes finalement très affectifs. Oh, j'ai participé à quelque chose, mon père. C'était vraiment fort. Mais encore. C'était fort. Bon, bah, très bien. Voilà. Et une petite vibration qui dure quelques jours. Et puis après, on revient dans les problèmes. Et comme les problèmes n'ont pas changé, eh bien, s'instaure une sorte de drogue spirituelle. Vous savez, une addiction spirituelle à tout ce qui est toujours plus fort. Voilà. L'abandon est l'acte par lequel la volonté veut fermement ce que Dieu veut. L'abandon est l'acte par lequel la volonté veut fermement ce que Dieu veut. Et donc on le voit, moins on est esclave du péché, ça veut dire que ça suppose un combat spirituel. De ces tendances mauvaises, ça aussi on l'a vu, le combat spirituel. Plus notre volonté est libre pour aimer, pour nous unir à Dieu. Et nous avons besoin de la grâce. Et cette liberté s'exprime de façon éminente en Marie, sans obstacle du péché. Voilà ce que l'on peut dire sur le sens de l'Immaculée Conception. Elle peut enfin dire oui pleinement au dessein de Dieu pour le monde, être la mère du Sauveur. Et on peut terminer sur cet aspect par des paroles de Joseph Ratzinger. Je vous en donne ici simplement un tout petit extrait, je reviendrai à la conclusion dessus, sur ce texte. En regardant le monde autour de nous, nous pouvons voir que le mal empoisonne toujours. Il n'élève pas l'homme, mais il l'abaisse et l'humilie. Il ne le rend pas plus grand, ni plus pur, ni plus riche. Mais il lui cause du mal et le fait devenir plus petit. C'est plutôt ceci que nous devons apprendre le jour de l'Immaculée Conception. L'homme qui s'abandonne totalement entre les mains de Dieu ne devient pas une marionnette de Dieu, une personne consentante, ennuyeuse, il ne perd pas sa liberté. L'homme qui se remet totalement à Dieu trouve la liberté véritable, l'ampleur vaste et créative de la liberté du bien. Je reviendrai là-dessus, je reviendrai sur ce texte dans ma conclusion, donc je ne m'y arrête pas pour le moment. Et je passe tout de suite à la deuxième partie, qui était peut-être un petit peu plus longue. C'est que si la Vierge Marie est conçue, si la Vierge Marie est l'Immaculée Conception, si elle est sans péché, si elle est pleinement libre, néanmoins, elle reste un modèle de foi. Et elle nous apprend ce pèlerinage de la foi. Je voudrais commencer par une introduction avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon, maintenant vous me connaissez. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sur la fin de sa vie, donc on est en 1897, et quelques semaines avant sa mort, je crois que c'était en juin ou en juillet, qu'elle compose ce très beau dernier poème sur la Vierge Marie, « Pourquoi je t'aime, ô Marie », qui a été chanté sous tous les tons. Mais qu'il faut méditer, parce qu'il y a vraiment tous les mystères. Et voilà ce qu'elle dit. « Que j'aurais donc voulu être prêtre pour prêcher sur la Vierge Marie. Il me semble qu'une fois, une seule fois, m'aurait suffi pour faire comprendre ma pensée à son sujet. J'aurais d'abord montré à quel point la vie de la Sainte Vierge est peu connue. Il ne faudrait pas dire d'elle des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. Par exemple, que toute petite, à 3 ans, elle est allée au temple s'offrir à Dieu avec des sentiments brûlants d'amour et une ferveur extraordinaire, tandis qu'elle y est peut-être allée tout simplement pour obéir à ses parents. Voyez le réalisme de Sainte Thérèse. Hein. On montre, c'est ça qui est très connu de Sainte Thérèse, on montre la Sainte Vierge inabordable, il faudrait la montrer imitable. Alors retenez bien ça. On montre la Sainte Vierge inabordable, il faudrait la montrer imitable, pratiquant les vertus cachées, dire qu'elle vivait de foi, comme nous. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas se borner à cela. Il faut la faire aimer. Si, en entendant un sermon sur la Sainte Vierge, on est contraint du commencement à la fin de s'exclamer en soi-même et de dire « Ah! Ah! » on est lassé et cela ne porte pas à l'amour et à l'imitation. D'autre part, nous sommes plus heureux qu'elle. Là aussi, ça c'est du Sainte Thérèse, 100%. On est plus heureux qu'elle car elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer. C'est une telle douceur de plus pour nous, c'est une telle douceur de plus pour nous, c'est une telle douceur de moins pour elle. Elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer, c'est une telle douceur de plus pour nous, c'est une telle douceur de moins pour elle. Et c'est dans cet esprit que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit son poème sur Marie. Et je vous en cite quelques versets. Ben, peut-être que j'en ai ici. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur? Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Tu me le fais sentir, ce n'est pas impossible de marcher sur tes pas, ô reine des élus. L'étroit chemin du ciel, tu l'as rendu visible en pratiquant toujours les plus humbles vertus. Et ensuite, l'Évangile m'apprend que, croissant en sagesse, à Joseph, à Marie, Jésus reste soumis. Et mon cœur me révèle avec quelle tendresse il obéit toujours à ses parents chéris. Maintenant je comprends le mystère du temple, les paroles cachées de mon aimable roi. Mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme qui le cherche en la nuit de la foi. Et cette dernière expression est très osée à l'époque de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il n'y a pas encore eu le Concile Vatican II sur la foi dans la Marie dans son pèlerinage de foi. Mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme qui le cherche en la nuit de la foi. Il y a une nuit de la foi, comme chez les grands mystiques, chez Marie. Quand elle ne comprend pas que Jésus soit resté au temple et qu'elle ait eu 3 jours de recherche, angoissée pour une mère et pour la mère de Dieu. Elle sait que cet enfant lui est confié, mais que ce n'est pas proprement le sien. Et qu'elle dit, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Nous te cherchions angoissés, ton père et moi. Elle ne dit pas ça pour rire. Elle ne dit pas ça pour réciter l'évangile. Elle n'a pas appris l'évangile par cœur, de fait. Et mais elle le dit de toute sa chair, quoi. Elle a vécu ici. Et elle a vécu de foi. Et cette foi, ce sera jusqu'au calvaire. Voyez? Jésus veut Mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme qui le cherche en la nuit de la foi. C'est en cela qu'elle est un modèle et qu'elle va être pour nous un vrai modèle d'abandon. L'abandon, c'est la liberté de l'amour dans la foi. Voilà. Là, vous avez tout. Je répète. Parce que cela, c'est très juste. La synthèse de mon cours qui tient en une parole. L'abandon à la volonté divine, c'est la liberté de l'amour dans la foi. Bon, bien sûr, la Bible est avare de détails sur la vie de la Vierge Marie. L'Évangile nous offre très très peu de choses. Et ce pèlerinage de la foi chez la Vierge Marie manifeste cette attitude d'abandon. Cet abandon qui n'empêche pas le questionnement. Ça montre bien la foi de Marie, si vous voulez. L'abandon de Marie, c'est pas, tout va bien, Madame la Marquise. Dans le mystère de l'Annonciation, il y a un modèle de prière d'abandon. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et il se trouve qu'elle est fiancée à Joseph, mais qu'elle n'est pas unie à lui. Elle est simplement... le contrat est comme promis, voyez, et on se marie à cet âge-là entre 13, entre 12 et 15 ans. Et ça veut dire que Joseph n'est pas plus vieux. Hein. On le représente au moins quinquagénaire. Mais il est pas beaucoup plus âgé qu'elle, il a peut-être 20 ans. Quoi. La pureté de Joseph, c'est quelque chose d'incroyable, d'immense. Joseph le juste, vous voyez, une nouvelle figure d'Abraham, comme Marie d'ailleurs. C'est quelque chose d'admirable de voir cela. Et donc elle dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. Et elle pose la question, mais alors comment cela va-t-il se faire? Parce que je ne connais pas d'homme. Les théologiens vont dire à ce moment-là que la Vierge Marie avait déjà promis dans son cœur, et sans doute au Temple, une consécration plénière, même si dans cette culture-là, ça n'est pas envisageable. Il y a quelque chose ici de très mystérieux. Quand elle dit à l'archange, je ne connais pas d'homme, comment cela va-t-il se faire? Eh bien, elle montre ici sa fidélité d'abord à Dieu, sa première fidélité qui est à Dieu, et son premier amour qui est à Dieu. Voilà, comment cela va-t-il se faire? Tout ange qu'il soit, eh bien, ou plutôt à tout ange qu'il soit, Marie manifeste sa prudence et sa sagesse. L'acte d'abandon n'est pas un acte imprudent, n'est pas une insouciance, n'est pas une imprévoyance. Être abandonné, c'est pas être insouciant. C'est pas dire, ben on verra ce qu'on verra. C'est pas chercher, c'est pas être dépassé par les événements. Non, voilà ce qui se passe, voilà ma situation. Elle n'est pas de ces vierges folles insouciantes dont parle l'Évangile. Au moment où son divin époux viendra à elle, elle ne veut pas manquer d'huile. Elle est prévoyante. Elle applique par avance les conseils de son fils. Quand tu veux bâtir une tour, commence par t'asseoir pour voir si tu as de quoi bâtir. Vous voyez, c'est ça, dans la question de Marie, il y a une vraie prudence, il y a une vraie sagesse. Et la réponse de l'ange requiert toute la foi et la confiance de Marie en la parole qui lui est dite. Parce que cela dépasse la raison, tout ce que la raison peut entrevoir. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Et à ce moment-là, la Vierge Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit accompli selon ta parole. » Elle reçoit la réponse de l'ange, elle accepte cette réponse dans la foi, comme une réponse plénière à sa prudence, à sa sagesse. Parce que la sagesse est aussi un don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Et elle reconnaît ici une sagesse plus haute. Ce fiat de Marie est la réponse pleine de foi à ce qui lui a été annoncé. Servir le Seigneur, voilà la grâce suprême. Je suis la servante du Seigneur. Servir le Seigneur, c'est la grâce suprême. Quand on a fait tout son devoir, se dire serviteur inutile n'est pas une humiliation, mais une grâce. Ça, ce serait presque du Bernanos. Ce serait un peu du Bernanos. C'est pas du Bernanos, c'est du Guillaume de Mantière. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Servir le Seigneur, voici la grâce suprême. Quand on a fait tout son devoir, se dire serviteur inutile n'est pas une humiliation, mais une grâce. C'est exactement cela que réalise la Vierge Marie. Le oui humble de Marie, le oui d'une servante qui ne revendique aucun privilège, qui ne revendique aucun privilège. Jamais elle aura revendiqué quelque chose. Elle restera à Nazareth, la femme du charpentier, une famille humble, éduquant humblement son enfant, que Joseph appellera Jésus. Tout cela nous apprend à dire la demande du Notre Père, avec elle, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle a été faite dans Marie, c'est-à-dire humblement. Ne cherchons pas d'abord des privilèges divins. Marie n'en a pas cherché. Voilà, je sais qu'à Nazareth, mère pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus, point de ravissement, de miracle, d'extase, n'embellisse ta vie, ô reine des élus. Le nombre des élus est bien grand sur la terre. Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux. Pourquoi peuvent-ils sans trembler lever vers toi les yeux? Parce que c'est par la voie commune, incomparable mère, qu'il te plaît de marcher pour les guider aux cieux. La voie commune. On n'a jamais fini de méditer cela. On parle de la vie cachée de Jésus. La vie cachée de Jésus se comprend à travers la vie cachée de Marie. Et c'est là que se vit l'abandon. Vous voyez, quand je définissais tout à l'heure l'abandon comme, j'essaie de m'en rappeler, vous voyez, la liberté de l'amour dans la foi, elle se vit d'une façon quotidienne, quotidienne, à travers les gestes les plus humbles de Marie. Marie qui doit, il n'y a pas l'eau courante, l'eau chaude, etc. Il faut aller avec sa cruche, aller au puits, à l'heure où les femmes y vont, revenir avec sa cruche. Et ce n'est pas en se mettant à genoux et en priant à Notre Père et trois « Je vous salue Marie » que le petit Jésus a sa pitance. Il faut quand même la faire, la pitance. Vous voyez, Marie nous apprend cet abandon dans les petites choses. Le regard qu'on a porté sur elle à Nazareth, petite bourgade où tout se sait, tous les murmures, vous savez, les murmures et les cancans des villageois, où tout se sait quand on voit Marie enceinte, alors qu'on sait qu'elle est promise en mariage à Joseph, mais que pour l'instant elle ne connaît pas d'homme. Comment est-ce qu'elle a vécu cela? La critique, l'incompréhension, l'opprobre. Quand son fils est sur les routes de Palestine, qu'il marche, qu'il prêche, qu'il harangue, qu'il exhorte, et qu'il se mêle avec les lépreux, avec ces gens de basse condition qu'on appelle pécheurs, qui sont exclus. Qu'est-ce qu'on lui rapporte? Vous voyez, à sa mère, à un moment donné dans l'évangile, on dit que les frères et la mère de Jésus sont là, qui veulent le ramener à la maison parce que disait-il, il a perdu la tête. Vous voyez, cet abandon dans les événements même. Et la Vierge Marie dit toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, à la fin de l'Annonciation, vous avez ce petit verset sur lequel aussi il faut méditer. Alors, l'ange la quitta. C'est fini. Le ciel ne s'ouvrira plus. Ni miracle, ni extase. Point de ravissement, de miracle, d'extase. N'embellisse ta vie. La vie de la Vierge Marie est une vie humble, cachée. Après l'Annonciation, l'ange la quitta. La Vierge Marie va vivre de la parole de Dieu reçue et de son oui dans le quotidien des jours. Mais à travers quelques événements relatés, on peut découvrir ces vertus que nous devons nous-mêmes imiter, qui nous rendent agréables au Seigneur. Nous oublions si souvent que notre vie chrétienne est une vie cachée. Nous oublions si souvent. On voudrait toujours du sensationnel. Oh, je suis allé écouter un prédicateur. Non mais trop fort. Oh, mon père, mais vous n'avez pas écouté le dernier groupe de rock chrétien. Hein, mon père, il faut vous mettre à la page. Notre vie chrétienne est une vie cachée. Retenons quelques leçons de vertu chez la Vierge Marie. L'étonnement, la vie de la Vierge Marie, c'était une vie d'étonnement, d'admiration, d'émerveillement. Ils étaient étonnés de ce que disaient les bergers. Luc 2, 18 et 2, 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ils ont admiré Jésus lui-même. Ensuite, c'est une vie de louange, le Magnificat. C'est une vie de piété, le pèlerinage à Jérusalem, l'accomplissement fidèle de la loi. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, Luc 2, 41, la piété. Chaque année, une vie régulière. C'est une vie d'obéissance et d'humilité. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la Sainte Famille, le plus grand se fait serviteur. Dans la Sainte Famille, l'obéissance est à rebours de la dignité des êtres. Le Fils de Dieu est soumis à l'Immaculée, qui elle-même est soumise à l'homme juste, à Joseph. C'est comme un rebours. Le plus grand se fait serviteur. Donc une vie d'obéissance, d'humilité, c'est aussi une vie de service aimant. Pensez à la visitation. Luc 1, 39. C'est une vie de prière et de méditation. Là aussi, on n'a pas fini de méditer sur ce verset. Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Comment je conserve et comment je médite dans mon cœur les événements de ma vie? Et comment je tisse dans mon cœur, vous voyez, cette tunique sans couture de ma vie chrétienne. La vie d'abandon de la Vierge Marie, c'est aussi une vie de pauvreté. La preuve en est l'offrande des deux tourterelles au moment de la purification. Et puis c'est une vie d'épreuve, de véritable épreuve. Par exemple, la fuite en Égypte. Et enfin, c'est une vie de foi. Voilà toutes les vertus que je donne de la vie cachée. Vous voyez, l'étonnement, l'admiration, la louange, la piété, l'obéissance, l'humilité, le service aimant, la prière, la méditation, la pauvreté, l'épreuve, la foi. Tout cela, vous le retrouvez, nous le retrouvons dans chacune de nos vies. Nous n'en faisons pas étalage. Mais nous savons que Marie a vécu la même chose. Quelquefois, on parle de l'imitation de Jésus-Christ. C'est un très beau petit livre. C'est magnifique. Mais quelquefois, Jésus peut nous paraître très très lointain, très... c'est ardu. Mais, voyez, nous imitons Jésus en imitant Marie. L'imitation de Jésus est l'imitation... Marie nous aide à imiter Jésus si nous apprenons à l'imiter elle. Mais parce qu'on peut se la représenter d'une façon très sainte, très juste, très humaine. Vous voyez ? Et elle ne nous apprendra jamais à vivre de miracles, de ravissements, etc. Quand on est tenté un peu par cette vie un peu surfaite, c'est une vie spirituelle, catho, un peu surfaite, bon catho, là, bon teint, pepsodent, etc. Vous êtes catho, ayez le sourire. Ben non, pas forcément. Et Marie nous apprend quelque chose de beaucoup plus profond que cela, une joie beaucoup plus profonde. En tout cela, la Vierge Marie est le modèle de la vie apostolique, dans la vie cachée, qui est celle des laïcs, ainsi que le Concile Vatican II le souligne. Voilà, je vous donne ici la citation du Concile Vatican II, que je n'ai pas notée sur le tableau. « La bienheureuse Vierge Marie, la reine des apôtres, est l'exemple parfait de cette vie spirituelle et apostolique. » Tandis qu'elle menait sur terre une vie semblable à celle de tous, remplie par les soins et les labeurs familiaux, Marie demeurait toujours intimement unie à son Fils et coopérait à l'œuvre du Sauveur à un titre absolument unique. Aujourd'hui, où elle est au ciel, son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n'est pas achevé, et qui se trouve engagé dans les peines et les épreuves jusqu'à ce qu'il parvienne à la patrie bienheureuse. Marie, maintenant qu'elle est au ciel, est attentive à notre propre pèlerinage parce qu'elle a vécu ce pèlerinage. Voilà. Et après la vie cachée, il y a un autre grand moment, bien entendu. C'est le moment de la croix où se vit le plus grand abandon. Dans l'évangile de Jean, le premier miracle, c'est celui, le premier miracle du ministère public de Jésus, c'est les noces de Cana et Marie, sa mère, était invitée. Elle voit, c'est elle qui voit l'embarras devant lequel vont se trouver ces jeunes fiancés qui en principe offrent le vin. Vous voyez, c'est eux qui offrent le vin. Parce que le vin vient à manquer. Ça devait être une famille qui ne devait pas être très riche. Et la simplicité d'un mariage dans les environs de Nazareth, à Cana, entre Nazareth et Capharnaüm, petite vie, petite bourgade. Vous voyez, c'est pas les grands mariages parisiens, pardon, de Jérusalem, etc., etc. Petit mariage, manque de vin. Et c'est Marie qui voit. C'est Marie qui voit le besoin. Et c'est elle qui en parle à son fils. Et il y a cette parole de son fils sur laquelle on pourrait s'attarder. Bon, que me veux-tu, femme, etc. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est sa confiance. Et pourquoi ? Parce qu'elle reconnaît que si l'heure de Jésus n'est pas encore venue, c'est-à-dire l'heure de la croix, ce miracle du vin préfigure le sang versé. Et ce repas des noces préfigure toute Eucharistie qui est un repas de noces. Bienheureux les invités aux noces de l'agneau. Voilà. Et donc, elle retiendra et elle méditera dans son cœur ce premier miracle. Elle y verra peu à peu, elle y découvrira le sens de l'oblation toujours plus grande de son fils. Et elle arrivera au pied de la croix. Voyez, et on a ce très beau poème de Victor Hugo que je vous dis ici, parce que je ne l'ai pas là. Ah si, je l'ai là, tiens. Elle était là, debout, la mère douloureuse. L'obscurité farouche, aveugle, sourde, affreuse, pleurer de toutes parts autour du Golgotha. Christ, le jour devint noir quand on vous en ôta, et votre dernier souffle emporta la lumière. Elle était là, debout, près du gibet, la mère. Et la mère qui râle au bas de la croix sombre est consolée, ayant les soleils dans son ombre, et tandis que ses yeux hagards pleurent du sang, elle sent une joie immense en se disant « Mon Fils est Dieu, mon Fils sauve la vie du monde, la vie au monde. » Victor Hugo dans les Contemplations. Et en fait, c'est toute cette vie humble, cachée, quotidienne, qui va préparer le mieux possible l'acte suprême et sublime en même temps de l'abandon, de foi, d'amour, de la Vierge Marie. Auprès de la croix se tenait sa mère. Se tenait, stabat, en latin signifie se tenir debout. Au pied de la croix, se tenait debout sa mère. Et ici, la Vierge Marie ira jusqu'au bout de la foi, en participant elle-même au don de son Fils qui va jusqu'au bout de l'amour. Jésus va jusqu'au bout de l'amour, il entraîne sa mère dans un jusqu'au bout de la foi. Marie ne doute pas des paroles de l'ange Gabriel. Dans le paradoxe même où elle vit le contraire, l'ange lui avait promis un fils qui serait sur le trône de David, dont le règne serait éternel, et son fils est là, crucifié, il est pendu comme un malfaiteur, ridiculisé. Il n'y a plus pour elle à ce moment-là aucune consolation sensible. Elle croit dans un total dépouillement de signes et de consolation. Dépouillement de signes, dépouillement de consolation. Au pied de la croix, Marie est témoin, là je vous cite Benoît XVI, l'audience du 15 février 2006. Je ne sais pas si je l'ai là. Non. Le Magnificat, au pied de la croix, Marie est témoin, humainement parlant, d'un total démenti des paroles de l'ange Gabriel. Comme elle est grande, comme elle est héroïque, l'obéissance de la foi dont Marie fait preuve face aux décrets insondables de Dieu. Par une telle foi, Marie est unie parfaitement au Christ dans son dépouillement. C'est là sans doute la kénose, l'abaissement total, si vous voulez, la kénose de la foi la plus profonde dans l'histoire de l'humanité. Par la foi, la mère participe à la mort de son fils, mais à sa mort rédemptrice. Et non seulement elle va être... elle est entraînée dans le jusqu'au bout de l'amour de son fils, c'est important ça, parce qu'elle le suit dans l'amour. Et en le suivant dans l'amour, elle va attendre dans la foi le jour de la résurrection. Et il n'est pas impossible de penser, comme beaucoup de théologiens le disent, que la première visite du Christ ressuscité se fera dans le silence intime d'une relation d'un fils à sa mère, avant les apôtres, où Marie est tout à la joie de découvrir son fils revenant vers elle. Et c'est ça qui nous emmène peu à peu, vous voyez comment cet abandon qui, si vous voulez, la Vierge Marie, ce qui est magnifique chez la Vierge Marie, c'est que au fur et à mesure de nos prières, au fur et à mesure de nos chapelets successifs, nous découvrons que les mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux de la Vierge Marie et de son Fils sont aussi, rejoignent les nôtres. Nous offrons, en fait, par Marie, au Seigneur de la gloire, de la croix et de la gloire, notre propre existence dans cette dimension joyeuse, lumineuse, douloureuse et glorieuse. On peut dire que la Vierge Marie, complètement unie à la vie de son Fils, vivant avec lui l'épreuve de la foi au sommet du calvaire, dans une fidélité constante, va vivre aussi la résurrection. Et l'Assomption est comme la reprise du Magnificat, mais chantée alors en plénitude, après l'épreuve de la mort, dans la joie de la résurrection. Avec la Vierge Marie, en la suivant pas à pas dans ses mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, nous découvrons que le fruit ultime de l'abandon à Dieu n'est pas une sorte de tristesse défaitiste, n'est pas une pieuse résignation, mais que le fruit ultime de l'abandon, c'est l'exultation de tout notre être envers l'amour divin qui a tout purifié en nous. L'épreuve nous purifie. L'épreuve nous conduit à un abandon toujours plus grand, mais en vue d'une inhabitation, d'une habitation dans notre cœur toujours plus grande du Seigneur. Le chant du Magnificat au moment de l'Annonciation, le chant du Magnificat, c'est un chant d'accueil, de confiance de cette jeune israélite qui est la fille de Sion. Un chant d'accueil, de confiance à ce que Dieu fait pour son peuple à travers elle. Après la résurrection et dans la gloire de l'Assomption, le Magnificat de Marie est un chant de victoire dont on sent tout ce que les paroles contenaient de promesses au moment de l'Annonciation ou de la Visitation. La Vierge Marie nous apprend que le cœur abandonné passe de la promesse à la victoire à travers toutes les épreuves de la vie. Le Magnificat, c'est encore du Benoît XVI, le Magnificat révèle en filigrane la spiritualité des Anaouim bibliques, c'est-à-dire de ces fidèles qui se reconnaissaient pauvres, non seulement en vertu de leur détachement de toute idolâtrie, de la richesse et du pouvoir, mais également en vertu de l'humilité profonde de leur cœur, dépouillés de la tentation de l'orgueil, ouverts à l'irruption de la grâce divine salvatrice. L'âme de la prière est donc la célébration de la grâce divine qui a fait irruption dans le cœur et dans l'existence de Marie, faisant d'elle la mère du Seigneur. Recueillons alors l'invitation que saint Ambroise nous adresse dans son commentaire sur le texte du Magnificat. Le grand docteur de l'Église dit « L'âme de Marie exalte le Seigneur et son esprit exulte en Dieu, car, consacrée en âme et en esprit au Père et au Fils, celle-ci adore avec une pieuse affection un seul Dieu, dont tout provient, et un seul Seigneur, en vertu duquel existent toutes les choses. » Voilà. Le Magnificat de Marie, qui l'accompagne dans tout son pèlerinage jusqu'à son Assomption, exprime cet abandon total comme attitude profonde du cœur, attitude chrétienne, un amour totalement libre d'union à Dieu dans la foi. Concluons, il est temps maintenant de conclure sur le tout, et je voudrais conclure avec ce, tout simplement ce texte de Benoît XVI, que vous, alors qui est sur vos feuilles, mais que je n'ai pas mis là parce qu'il est trop long, et que je vais lire. Et il est presque à peine besoin de le commenter, mais il résume vraiment l'ensemble de ces 8 enseignements. L'homme qui s'abandonne totalement entre les mains de Dieu, dit le Saint-Père, ne devient pas une marionnette de Dieu. Nous ne sommes pas des marionnettes quand nous vivons l'abandon. Une personne consentante ennuyeuse. Il ne perd pas sa liberté. Seul l'homme qui se remet totalement à Dieu trouve la liberté véritable. L'ampleur vaste et créative de la liberté du bien. Parce qu'en fond, il n'y a de liberté épanouie que dans le choix du bien. Plus nous choisissons le bien, plus nous restons libres. Plus nous choisissons le mal, moins nous sommes capables de choisir le bien, plus nous sommes esclaves. Plus nous choisissons le bien, plus nous restons libres. Vous comprenez la liberté de Marie. L'homme qui se tourne vers Dieu ne devient pas plus petit, mais plus grand. Car grâce à Dieu et avec lui, il devient grand, il devient divin, il devient vraiment lui-même. L'homme qui se remet entre les mains de Dieu ne s'éloigne pas des autres en se retirant dans sa rédemption privée. Vous voyez, la Vierge Marie à Cana, toute mère de Dieu qu'elle est, ne s'éloigne pas du besoin, de nos besoins les plus humains, le besoin des hommes, le besoin d'un bon vin pour un mariage. Au contraire, ce n'est qu'alors que son cœur s'éveille vraiment et qu'il devient une personne sensible et donc bienveillante et ouverte. Ça, c'est tellement important dans une société très individualiste. Le rayonnement chrétien, l'apostolat chrétien, la sainteté chrétienne, on découvre qu'une personne est vraiment à Dieu quand elle est vraiment aux autres. Il ne peut pas y avoir de christianisme individualiste, c'est pas possible. C'est une contradiction dans les termes. Celui qui est vraiment à Dieu est vraiment aux autres. Plus l'homme est proche de Dieu, plus il est proche de l'homme. Je continue le texte. Plus l'homme est proche de Dieu, plus il est proche des hommes. Nous le voyons en Marie. Le fait qu'elle soit totalement auprès de Dieu est la raison pour laquelle elle est également si proche de tous les hommes. C'est pourquoi elle peut être la mère de toute consolation et de toute aide. Une mère à laquelle, devant chaque nécessité, quiconque peut oser s'adresser dans sa propre faiblesse et dans son propre péché. Et dans son propre péché. Car elle comprend tout. Et elle est pour tous la force ouverte de la bonté créatrice. C'est en elle que Dieu imprime son image, l'image de celui qui suit la brebis égarée jusque dans les montagnes et parmi les épines et les ronces des péchés de ce monde, se laissant blesser par la couronne d'épines de ses péchés, pour prendre la brebis sur ses épaules et la ramener à la maison. En tant que mère compatissante, Marie est la figure anticipée et le portrait permanent de son Fils. Nous voyons ainsi que même l'image de la Vierge des douleurs, de la mère qui partage la souffrance et l'amour, est une véritable image de l'Immaculée. Son cœur, grâce au fait d'être et de ressentir avec Dieu, s'est agrandi. En elle, la bonté de Dieu s'est beaucoup approchée et s'approche beaucoup de nous. Ainsi, Marie se trouve devant nous comme un signe de réconfort, d'encouragement, d'espérance. Elle s'adresse à nous en disant « Aie le courage d'oser avec Dieu Essaye, n'aie pas peur de lui. Aie le courage de risquer avec la foi. Aie le courage de risquer avec la bonté. Aie le courage de risquer avec le cœur pur. Engage-toi avec Dieu. Tu verras alors que c'est précisément grâce à cela que ta vie deviendra vaste et lumineuse, non pas ennuyeuse, mais pleine de surprises infinies, car la bonté infinie de Dieu ne se tarit jamais. Voilà, c'est un texte que vous pouvez méditer, qui est très très beau, que vous pouvez prendre dans la prière. C'est une homélie du pape Benoît XVI, du 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception, 8 décembre 2005. Voilà, ainsi s'achèvent les cours, ce cours, cette série de cours sur l'abandon. L'année prochaine, peut-être, si j'en ai la force et si j'en suis capable, je vous ferai un petit enseignement au long de l'année sur la miséricorde divine, puisque nous rentrons dans l'année sainte de la miséricorde et que Saint Louis d'Antin sera un des lieux missionnaires de la divine miséricorde. Merci beaucoup et bon été. Voilà. J'aurais dû y penser alors, mais l'épreuve, c'était quoi déjà? Je vois bien le combat spirituel, l'abandon dans l'épreuve. Non, non, je ne l'ai pas. Je suis vraiment désolé, mais non, je ne l'ai pas. Je suis désolé. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Merci. Ah, je ne sais pas encore.
On est pressé.
Ah oui. Non, 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 je suis parti. Je pars 5 jours, 6 jours, là.
Me poser un peu. Je vais dire la messe pour mon fils.
Ah, très bien, très bien.
Ah, très bien. Vous avez pensé que c'était...
Eh bien, non, non, non. Et alors, voilà, les examens sont bons et tout va bien.
Ah bon?
Oui.
On ne vous parle même pas.
Hein?
On ne vous fait rien du tout.
Je ne sais pas, on va
voir. Et vous revenez quand? Parce que je serai là.